Chers auditeurs et auditrices, nous continuons la deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Nous sommes à l'étude numéro 43 et notre titre ce matin pour l'étude que nous allons avoir ensemble, c'est « Notre corps est le temple du Saint-Esprit ». Nous avons vu que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui va retenir notre attention maintenant, c'est l'accent que l'apôtre Paul met sur les effets produits par cette présence sur le corps. L'idée courante, c'est que la vie de Christ est pour notre esprit et non pour notre corps. Peu de chrétiens réalisent que le salut de Dieu a aussi des conséquences pour notre corps. Une fois que le Saint-Esprit a donné la vie à notre esprit, donc si Dieu avait voulu que son Fils ne vive que dans notre esprit, il aurait suffi à l'apôtre de dire « Votre esprit est le temple de Dieu » sans du tout mentionner le corps. Mais nous en savons assez maintenant pour comprendre que si notre corps est présenté comme le temple du Saint-Esprit, il y a là, pour celui qui le reçoit, plus qu'un privilège spécial. Cette présence à la portée d'un canal de transmission, il a en effet la portée d'un canal de transmission, si vous voulez, d'une puissance absolument réelle. Sa demeure en nous fortifie notre homme intérieur, éclaire les yeux de notre cœur et procure la santé à notre corps. Nous avons noté également comment le Saint-Esprit donne la vie à notre enveloppe mortelle. Il n'est nullement nécessaire d'attendre d'être mort et enterré pour ressusciter. Le Saint-Esprit assure dès maintenant le renouvellement de notre homme extérieur. Dans l'avenir, il relèvera d'entre les morts notre corps redevenue poussière. Mais aujourd'hui, c'est notre corps mortel qui fait l'expérience de sa vie. Pas une cellule de notre être n'échappe à l'influence vivifiante de ce renouvellement. Nous n'avons plus besoin de considérer notre enveloppe charnelle comme étant une misérable prison, car nous pouvons découvrir en elle une expression de la vie de Dieu. Et nous pouvons maintenant faire une expérience plus profonde de cette parole « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Christ est devenu pour nous en réalité une source de vie. Il vit en nous aujourd'hui comme il vivait autrefois dans la chair. Aussi pouvons-nous nous assimiler plus complètement ce qu'impliquait sa déclaration d'intention quand il avait dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie » et qu'elle l'ait en abondance. Saint Jean, chapitre 10, verset 10, version Darby. La vie avec abondance permet à notre corps de nous rendre tous les services que nous attendons de lui. Mais nous devons sans plus de délai détromper ceux de nos auditeurs qui pourraient croire que nous méconnaissons un fait spécial, c'est que notre corps est un corps mortel. Oui, c'est vrai, il est un corps mortel, mais même ainsi, nous qui sommes au Seigneur, nous possédons véritablement la puissance de cette vie qui anéantit la mort, selon Ésaïe, chapitre 25, verset 8. Il y a dans notre corps deux forces en action. Tout d'abord la mort, ensuite la vie. D'un côté, il s'opère une consommation de ressources qui nous amène aux portes de la mort, et de l'autre, par la nourriture et le repos, un nouvel apport générateur de vie. Une activité extravagante ou exagérée va affaiblir le corps parce que la puissance de la mort est trop grande. Mais suivant le même processus, si l'apport alimentaire de remplacement est beaucoup trop abondant, il y aura des signes de congestion apparaissant parce que la puissance de la vie, elle est aussi en ce moment-là trop grande. La bonne méthode est de maintenir les deux forces en équilibre. D'autre part, nous devons comprendre que la fatigue dont les croyants font souvent l'expérience dans leur corps est différente, et cela sous bien des rapports de celle, par exemple, qu'éprouvent les gens du monde. La consommation d'énergie des chrétiens est plus que physique. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas seulement physique, parce que ils marchent avec le Seigneur, ils portent les fardeaux des autres, ils sympathisent avec les frères et sœurs, ils font l'œuvre de Dieu, ils intercèdent devant lui. Donc, ils font, vous l'avez compris, la guerre avec les puissances des ténèbres et malmènent ainsi leur corps pour l'assujettir, et heureusement que la nourriture et le repos qui devraient suffire, malheureusement ne suffit pas toujours. Et pour récupérer les pertes de force de leur être physique, eh bien voilà, il faut s'en remettre entièrement au Seigneur. Notre force corporelle, elle ne peut pas faire face aux exigences de la vie, de l'œuvre et de la guerre spirituelle, la lutte avec le péché, avec les pécheurs et avec les mauvais esprits. Tout cela va saper notre vitalité. Pour nous chrétiens, les ressources naturelles sont incapables de répondre à tous nos besoins corporels. C'est de la vie de Christ que nous devons dépendre. C'est elle qui renouvelle nos énergies. Seule la vie du Seigneur Jésus peut suffire et suffit largement à mesure, oui, que nous pouvons assurer la continuité de notre ministère. Une fois que le croyant a réalisé ce qu'est vraiment la lutte spirituelle et comment il doit combattre l'ennemi par l'esprit, il découvre ce qu'il a d'infiniment précieux pour son corps, oui, pour son corps, dans la vie du Seigneur Jésus. Voyez par exemple les arbres, par leur union avec le tronc, les branches reçoivent un flot de vie. Sans participation à la vie du Seigneur Jésus, il ne peut y avoir pour le croyant ni guérison ni santé. Dieu appelle aujourd'hui ses enfants à faire l'expérience d'une union plus profonde avec leur Seigneur. Reconnaissons donc, bien que les phénomènes qui ont lieu dans notre corps, il s'agit en réalité de questions spirituelles, qui trouvent leur réponse sur les deux plans, c'est-à-dire physique et spirituel. La glorieuse vie de résurrection de Christ, victorieuse de tout, Dieu veut que nous apprenions à l'exprimer dans toutes les parties de notre être. Il veut nous voir retrouver notre vigueur quotidiennement, mais l'heure ou d'heure en heure, eh bien cela n'est qu'une vie, elle devrait être une vie véritable. C'est donc là, en effet, que devrait être notre vie véritable. Alors, si c'est Dieu qui alimente notre vie, sa parole est également la vie de notre corps. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 4. Ce texte matérialise la pensée que la sainte parole de Dieu est capable de fortifier notre corps. Nous contemplons ici les deux modes de vie, naturels et surnaturels. Dieu ne dit pas que désormais nous n'aurons plus besoin de manger. Il nous informe simplement que la sainte parole est en mesure de nous communiquer une vie que nous ne trouvons pas uniquement dans la nourriture. Quand les aliments ne produisent pas ou n'entretiennent pas dans notre corps les forces nécessaires, sa sainte parole peut nous donner ce qu'il nous faut. Les uns vivent de pain seulement, les autres de pain et de la sainte parole de Dieu. Le pain ne réussit pas toujours, mais la sainte parole de Dieu ne change jamais. Dieu cache donc sa vie dans sa sainte parole. Dans la mesure où il est la vie, ainsi est également sa sainte parole. Si nous ne considérons la vie de Dieu que comme un enseignement, un credo, un code de morale, elle ne produira pas grand effet sur nous. Non, la parole de Dieu doit être digérée en quelque sorte et elle doit être assimilée en nous, tout comme la nourriture matérielle. Les croyants qui ont faim la prennent pour aliment. S'ils la reçoivent avec foi, elle devient leur vie. Dieu se fait fort d'entretenir notre vie par sa sainte parole. Dieu a donc pourvu avec abondance à tous les besoins de notre tente terrestre. Mais les croyants d'aujourd'hui font peu de cas de sa libéralité. Ils ne se doutent pas des lourdes pertes que leur vaut cette indifférence. Chers amis, nous avons les expériences des saints d'autrefois. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que ses enfants soient faibles. Il a décrété qu'ils devaient être robustes et en bonne santé. Ta vigueur durera autant que tes jours, est-il dit ? Affirme, en effet, encore une fois, notre sainte parole de Dieu. Lisez et notez Deutéronome, chapitre 33, verset 25. Et c'est naturellement du corps qu'il s'agit. Dieu promet de nous donner la force dont il a besoin, si longue que soit notre vie sur la terre. Il n'envisage jamais de nous faire vivre un jour de plus sans nous fournir la vigueur nécessaire pour ce jour-là. si ces enfants constatent que leur vitalité n'est pas à la mesure des jours qu'ils ont à passer sur la terre, c'est parce qu'ils négligent de se prévaloir par la foi de cette précieuse promesse. Et pour mieux les assurer qu'ils auront toutes les énergies dont ils ont besoin pour achever les années qu'il leur donne à vivre, Dieu leur promet d'être lui-même leur force. Aussi vrai que Dieu est vivant, notre force ne sera limitée que par la durée de notre vie. Donc, fort de la promesse de Dieu, nous pouvons à chaque nouvelle aurore nous lever en disant « Parce que Dieu est vivant, aujourd'hui, je serai de nouveau en forme, tant physiquement que spirituellement. » Pour les saints d'autrefois, c'était une expérience courante de connaître Dieu comme une force pour leur corps ou de sentir leur corps pénétré de sa vie. C'est chez Abraham que nous pouvons observer la chose pour la première fois. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Romains chapitre 4, verset 19. C'est donc par la foi qu'il engendra Isaac. La puissance de Dieu se déploya dans un corps déjà usé. Le nœud de la question ici n'est pas tellement l'état de notre corps, mais c'est la puissance de Dieu dans ce corps. Les Saintes Écritures nous parlent de la vie de Moïse. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée, Deutéronome 34, verset 7. Il y a là, sans aucun doute possible, une puissante manifestation de la vie de Dieu dans le corps de Moïse. La Bible mentionne aussi l'état physique de Caleb. Après l'entrée des Israélites en Canaan, Caleb rend ce témoignage: « Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, ou soit pour entrer. » Josué, chapitre 14, versets 10 et 11. Pour cet homme qui suivit pleinement le Seigneur, Dieu devient une force, comme il l'avait promis, en sorte qu'après 45 ans, sa vigueur n'était pas diminuée. Le livre des Juges nous parle des prouesses physiques de Samson. Bien qu'il accomplit de nombreux actes répréhensibles, malheureusement, et que le Saint-Esprit ne soit pas disposé à revêtir tous les croyants d'une force aussi prodigieuse, il est certain que si nous sommes dans sa dépendance, nous verrons que sa puissance suffit à tous nos besoins. Les cantiques chantés par David, tels qu'ils nous ont été conservés dans ses psaumes, établissent clairement qu'il avait la puissance de Dieu dans son corps. Voyez par exemple les passages psaume 18, verset 1. « Je t'aime, ô Éternel, car tu es ma force. » Psaume chapitre 18, verset 33. « C'est Dieu qui me ceint de force. » Psaume 27, verset 1. L'Éternel est le soutien de ma vie, psaume 103, verset 5. Et c'est lui qui te fait rajeunir, il te fait rajeunir comme l'aigle. Le prophète Ésaïe rend aussi témoignage dans le même sens. L'Éternel est ma force et il est le sujet de mes louanges. Ésaïe 12, verset 2. Notez aussi Ésaïe 40, versets 29 à 31. C'est dans le corps que se trouve manifestée toute cette vigueur, car la puissance de Dieu, elle se trouve libérée en faveur de ceux qui s'attendent à lui. Daniel, complètement effondré sous la vision du chapitre 8, est relevé par un messager dont il dit « Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. » Daniel chapitre 8, verset 18. Dans une autre circonstance où ses forces l'abandonnèrent, il finit par dire à celui qui était venu pour le fortifier de la part de Dieu « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Daniel chapitre 10, verset 19. Les chrétiens devraient savoir que Dieu prend soin de leur corps. Il n'est pas seulement la force de notre esprit, il est aussi celle de notre corps. Même à l'époque de l'Ancien Testament, alors que la grâce n'était pas manifestée autant qu'elle l'est aujourd'hui, les saints ont fait l'expérience que Dieu était la force de leur enveloppe charnelle. La bénédiction d'aujourd'hui peut-elle être moindre que la leur? Nous devrions jouir au moins autant qu'eux, de cette puissance divine revigorante. Si nous ne sommes pas au clair sur les richesses de Dieu, il est compréhensible que nous limitons leur effet à ce qui concerne notre esprit. Mais ceux qui ont la foi n'en resteront pas là. Ils feront encore participer leur corps aux bienfaits de la puissance divine. Nous tenons à bien faire remarquer ici que la vie de Dieu est non seulement capable de guérir nos maladies, mais qu'elle peut aussi nous maintenir forts et sains. Ce Dieu qui est notre force, il peut nous faire surmonter et la faiblesse et la maladie. Il ne nous guérit pas pour nous laisser ensuite vivre de nos énergies naturelles. C'est lui qui est l'énergie de notre corps, et cela pour que nous vivions par lui et que nous trouvions en lui toute la force dont nous avons besoin pour son service. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, Dieu leur a fait cette promesse. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Exode chapitre 15, verset 26. Nous trouvons plus tard cette promesse pleinement réalisée. Nul ne chancela parmi ses tribus. Psaume 105, verset 37. Si nous nous livrons complètement à Dieu, si nous ne lui refusons rien, et recevons par la foi sa vie comme force de notre corps, nous ferons la preuve qu'il est bien l'Éternel qui te guérit. en acceptant l'enseignement biblique selon lequel nos corps sont les membres de Christ, nous sommes obligés d'admettre ainsi que nos membres sont au bénéfice d'une participation à sa vie. La vie de Christ s'épanche de la tête au corps, lui fournissant énergie et vitalité. Puisque nos corps sont membres de ce corps, il est tout naturel que la vie leur parvienne de sa part, mais c'est par la foi que cet apport doit être approprié. Notre expérience effective de cette vie sera à la mesure de la foi dont nous faisons preuve pour la recevoir. Nous avons appris par l'Écriture sainte que le corps du croyant peut s'approprier la vie du Seigneur Jésus, mais sans la foi, il ne faut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Les chrétiens qui sont mis en contact avec cet enseignement pour la première fois sont fort surpris, et ça, on le comprend. Mais nous ne pouvons pas diluer ce que la Sainte Parole enseigne très clairement. Un examen de l'expérience de l'apôtre Paul peut nous démontrer la réalité et la valeur de cette participation à la vie de notre Seigneur. À propos de son état physique, l'apôtre Paul fait allusion à une écharde dans la chair. Par trois fois, il a demandé au Seigneur de la lui enlever. Mais il a reçu cette réponse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et la réaction de l'apôtre a été « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ puisse reposer sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 9 à 10. Nous n'avons pas besoin de nous demander ce que était cette écharde, parce que la Bible ne le divulgue pas. Mais une chose est certaine, c'est que le corps de l'apôtre était affaibli par sa présence. La faiblesse dont il parle ici était de nature physique. Le même terme est utilisé dans l'original au verset 17 de Saint Matthieu chapitre 8. Les Corinthiens la connaissaient bien, cette fragilité corporelle de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 10. Il reconnaît lui-même qu'il était physiquement faible quand il est venu chez eux pour la première fois. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3. Sa débilité ne pouvait pas être imputable à un manque de puissance spirituelle, car ces deux lettres aux Corinthiens révèlent chez lui une vigueur spirituelle très peu commune. Ces quelques passages suffisent à nous donner un aperçu de l'état physique de Paul. Il était très faible de corps, mais l'est-il resté longtemps ? Non, parce qu'il nous informe que la puissance de Christ, reposant sur lui, l'a rendu fort. Nous remarquons ici une loi des contrastes. Ni les chardes, ni la faiblesse qui en dérivait ne l'avaient quitté. Mais cependant, la puissance de Christ, inondant son frêle corps, le mettait en mesure de répondre à tous les besoins. La puissance de Christ était en contraste avec la faiblesse de son serviteur. Cette puissance n'a pas éloigné les chardes ni éliminé sa faiblesse, mais elle demeurait en lui pour traiter toutes les situations auxquelles son corps fragile n'aurait pas pu faire face. Elle peut se comparer, cette puissance, à une mèche qui, bien que mise à feu, ne se consume pas parce qu'elle est saturée d'huile. La mèche reste molle et inconsistante, mais l'huile fournit à la flamme tout ce dont elle a besoin. Nous saisissons ainsi le principe, c'est la vie de Dieu qui doit être notre capacité corporelle. Elle ne transforme pas la nature de notre corps faible et mortel, elle se borne à le remplir de toutes les ressources qu'il lui faut. En ce qui concerne son état de nature, l'apôtre Paul était incontestablement le plus faible des hommes. Mais quant à la puissance de Christ qu'il possédait, n'était-il pas le plus fort? Nous savons comment il travaillait jour et nuit, dépensant sans compter sa vie et son énergie, accomplissant une œuvre dont plusieurs hommes physiquement forts n'auraient pas pu venir à bout, même pas Schwarzenegger. Comment donc un homme aussi faible que l'apôtre Paul pourrait-il fournir un tel labeur si son enveloppe mortelle n'était pas vivifiée par le Saint-Esprit? C'est un fait établi que Dieu communiquait à l'apôtre Paul de la force corporelle. Comment l'a-t-il fait? Eh bien, l'apôtre Paul parle de son corps. Il en parle quand il expose dans le chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens comment lui et comment ceux qui sont avec lui portent toujours dans leur corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. C'est ce qu'il dit. Car nous qui vivons, ajoute-t-il, nous sommes sans cesse livrés à la mort, et cela à cause de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 10 et 11. Ce qui doit retenir notre intérêt ici, c'est que ce 2 Corinthiens 4, verset 11, ceci n'est pas une simple répétition. Le verset 10 parle de la vie de Jésus-Christ manifestée dans notre chair mortelle. Bien des chrétiens peuvent exprimer la vie de Christ dans leur corps, mais ne vont pas plus loin. Ils ne l'expriment pas dans leur chair mortelle. La distinction est vraiment d'importance. Quand une personne tombe malade, il est fréquent de la voir obéissante et patiente, ne formulant aucune plainte, ne montrant aucune anxiété. ces chrétiens-là réalisent la présence du Seigneur et manifestent ses vertus dans leur maintien, leurs paroles et leurs actes. Par le Saint-Esprit, ils, au pluriel, ils manifestent vraiment la vie de Jésus-Christ dans leur corps. Néanmoins, ils ne connaissent pas la puissance des guérisons du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas entendu dire que sa vie était aussi pour leur pauvre corps. Leur foi n'est pas mise à contribution pour la guérison de leur corps comme elle le fut pour la participation de leur péché et le renouvellement de leur esprit. Voyez-vous, je veux répéter cette phrase différemment. Leur foi, elle n'a pas été mise à contribution pour la guérison de leur corps, comme elle l'a été pour la purification de leur péché et pour le renouvellement de leur esprit. Aussi sont-ils impuissants à manifester la vie de Jésus dans leur chair mortelle. Ils reçoivent la grâce de supporter la souffrance, mais ne reçoivent pas la guérison. Ils ont expérimenté le verset 10 de 2 Corinthiens chapitre 4, mais le verset 11 est resté totalement inexploré. Chers amis, comment Dieu nous guérit-il et nous fortifie-t-il? C'est par la vie de Jésus-Christ. Quand notre chair mortelle est revitalisée, la nature de notre corps ne s'en trouve pas modifiée, elle reste la même. Mais la vie qui fournit la vitalité à ce corps, c'est elle qui est changée, alors que autrefois nous vivions par la puissance de notre vie naturelle, nous vivons maintenant par l'énergie de cette vie surnaturelle de Christ, parce que sa puissance de résurrection soutient notre corps, nous sommes rendus capables d'accomplir les tâches qui nous sont dévolues. L'apôtre ne laisse pas entendre qu'ayant fait l'expérience de la vie du Seigneur, nous ne serions plus jamais dans la faiblesse. Pas du tout. Car toutes les fois que la puissance de Christ ne l'a pas guéri, il est resté aussi faible qu'avant. Mais nous pouvons perdre la manifestation de la vie de Jésus par négligence, ou par indépendance, ou encore à la suite d'un péché. Quelquefois, nous pouvons être affaiblis par une attaque des puissances de ténèbres contre lesquelles nous nous étions hardiment avancés, ou bien nous pouvons tomber dans l'affliction pour le corps de Christ si nous sommes profondément engagés dans ses destinées. Mais ces deux cas ne se produisent que chez les personnes profondément spirituel. Quoi qu'il en soit, d'une chose nous sommes certains, si faibles que nous soyons encore, ce ne sera jamais la volonté de Dieu que nous soyons des invalides, incapables de travailler pour lui. L'apôtre Paul était souvent faible, mais l'œuvre de Dieu n'a jamais eu à souffrir à cause de sa faiblesse. Oh non, mais l'œuvre de Dieu a pu continuer, nous reconnaissons l'absolue souveraineté de Dieu, mais les chrétiens ne peuvent pas en tirer argument pour se dérober, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Tel est le fondement de la vie de Jésus manifestée dans notre corps. En d'autres termes, notre propre vie, elle doit être totalement reniée avant que la vie de Jésus-Christ soit manifestée dans nos corps. Nous voyons par là l'étroite relation qu'il y a entre une marche spirituelle vidée de tout élément personnel et un corps qui est en bonne santé. La puissance de Dieu est utilisée exclusivement pour ses intérêts à lui. Les énergies divines ne nous sont pas dispensées pour que nous les gaspillions ou pour qu'elles servent nos propres desseins. C'est là qu'il faut chercher l'explication de beaucoup de prières inexaucées. Dieu n'est pas disposé à nous accorder sa vie pour que nous menions une existence indépendante. Ne serait-ce pas vivre encore davantage pour nous-mêmes, avec une perte encore plus grande pour l'accomplissement de la volonté de Dieu? Il attend aujourd'hui que ses enfants mettent le point final à leur vie. Alors, mais alors seulement, il pourra leur accorder ce qu'ils cherchent. Que faut-il entendre ici par la mort de Jésus? Il s'agit de cette vie de Jésus qui livre continuellement à la mort ce qui lui est propre. La marche toute entière du Seigneur a été caractérisée par le reniement de lui-même. Jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais rien fait de lui-même. Il a toujours accompli l'œuvre de son Père. Et l'apôtre nous apprend ici qu'en laissant cette mort de Jésus agir dans son corps, il a vu se manifester aussi la vie de Jésus dans sa chair mortelle. Le recevons-nous, cet enseignement? Dieu est dans l'expectative, et cela pour voir quels sont ceux qui acceptent la mort de Jésus pour qu'il, Jésus-Christ, puisse vivre, lui, dans leur corps. Si nous traitons consciencieusement le côté mort, Dieu s'occupera du côté vie, mais nous lui offrons notre faiblesse, c'est ce que nous devons faire. Et lui, Jésus, et Dieu, nous donne sa force. Si nous sommes offerts à Dieu sans réserve, si nous nous sommes offerts à Dieu sans aucune réserve, eh bien, nous pouvons croire que c'est lui qui nous a préparé le corps que nous avons. Mais nous nous imaginons souvent que la vie serait bien agréable si nous avions pu décider nous-mêmes de quelle manière nous désirons être faits. Ce que nous désirons par-dessus tout, c'est que nos corps soient exempts de défauts et possède une forte résistance pour que nous puissions vivre, oui, pour que nous puissions vivre plus longtemps sans aucune douleur ni aucune maladie. Mais Dieu ne nous a pas consultés. Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Nous ne devrions pas juger nos ascendants pour leurs fautes et pour leurs péchés. Faisons attention de ne pas juger trop hâtivement, ni douter de l'amour et de la sagesse de Dieu. Tout ce qui nous concerne a été décrété avant la fondation du monde. La volonté de Dieu est excellente et il l'accomplit même dans ce corps de souffrance et de mort. Allons-nous nous comporter en déserteurs de ce corps comme s'il était pour nous un fardeau trop pesant? Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il nous presse, bien au contraire, de saisir un nouveau corps par le Saint-Esprit, qui habite en nous. Quel que soit le corps qui nous est échu, Dieu est pleinement conscient de ses limitations et des dangers qu'il court. Et nos expériences douloureuses sont destinées dans sa pensée à nous faire désirer un nouveau corps pour que nous ne vivions plus des forces que nous possédons naturellement, mais de la force que Dieu tient en réserve pour nous et pour toi. Ainsi, nous échangerons notre faiblesse contre sa force. Quand même ce corps n'aura pas été transformé, la vie qui l'animera sera déjà une vie nouvelle. Alléluia. Le Seigneur trouve sa joie à inonder de sa puissance chacun de nos nerfs, toutes les cellules et les moindres capillaires de notre corps. Il ne transforme pas notre nature affaiblie en une nature vigoureuse, et la force qu'il nous accorde, elle est assez mesurée pour que nous ne puissions pas en faire provision. S'il veut être la vie de notre chair mortelle, c'est pour que nous vivions de lui un jour après l'autre. Chez l'apôtre Paul, la chair était fréquemment affaiblie, mais la force du Seigneur lui était continuellement infusée. Il vivait donc du Seigneur à tout instant. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire face n'importe quand, à n'importe quelle situation, mais en nous confiant en Jésus-Christ continuellement, nous recevons la force nécessaire par moments successifs. C'est ce que signifie cette parole prononcée par Jésus. Non, pardonnez-moi. C'est par Jérémie. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jérémie? Il dit, « Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Jérémie dit, « Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Jérémie 45, verset 5. « Comme je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Saint Jean, chapitre 6, verset 57. Le secret de cette existence est là, tout entier. Or, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons donc hardiment prendre ce chemin si risqué qu'il puisse être considéré par la sagesse humaine. Nous sommes absolument démunis, mais par lui, nous irons de l'avant et nous vaincrons. Plus nous sommes démunis, mieux sa puissance est démontrée. Notre force propre ne peut d'ailleurs jamais collaborer avec le Seigneur si nous essayons de lui apporter du renfort, c'est-à-dire du renfort de notre propre fond. Alors là, nous ne moissonnerons que défaite et humiliation. Puisque le Seigneur exige une telle confiance en lui, cette procédure ne devrait pas être limitée à nos états de faiblesse. Nous devons aussi l'appliquer à ce qui est fort en nous. Certains chrétiens qui peuvent se targuer d'être physiquement robustes pourraient penser qu'ils n'ont pas besoin de rechercher cette expérience tant qu'ils ne sont pas sur le chemin de la faiblesse. Il y a là une erreur de jugement, car celui qui est fort naturellement a autant besoin de la vie de Dieu que celui qui est faible. Rien de ce qui vient de l'ancienne création ne peut satisfaire Dieu. Si les chrétiens se laissaient secrètement instruire par le Seigneur, ils mettraient de côté leur propre force pour accepter celle de Dieu, même si leur corps est vigoureux et ne semble pas avoir besoin de sa vie. Ce n'est pas qu'ils aient à choisir la faiblesse de propos délibérés, évidemment non. C'est plutôt qu'ils doivent mettre en doute la valeur de leurs ressources, comme ils font des réserves au sujet de la valeur de leurs talents. Une telle consécration leur épargnera cette sorte d'autosuffisance qui se fonde sur les énergies naturelles, défaut qui malheureusement n'est pas rare chez les serviteurs de Dieu. Ils auront donc peur de faire un seul pas sans en avoir reçu l'ordre. Ils agiront comme agissent ceux qui sont faibles, qui n'osent pas faire le moindre mouvement sans être fortifiés par le Seigneur. Ils se garderont de toute dépense d'énergie inconsidérée comme s'ils étaient faibles de nature. Or, un tel mode de vie exige impérieusement que le moi soit fait prisonnier par le Saint-Esprit. Autrement, nous perdrons certainement la partie. On voit des gens admirer cette vie de reniement alors qu'ils sont incapables de tenir en bride leur propre énergie. Ils s'attirent pour un temps l'admiration des hommes, mais leur corps finira par s'effondrer. La vie de Dieu refuse de se laisser tenir en laisse et surtout par la volonté humaine uniquement. Il ne donnera jamais la force nécessaire à l'accomplissement d'une œuvre qu'il n'aurait pas ordonnée. Si nous, nous risquons à déployer de l'activité en dehors du domaine de la volonté de Dieu, nous découvrirons que la vie de Dieu se dérobe et que notre corps fragile doit assumer lui-même la tâche à accomplir. Pas de présomption si nous voulons vivre de lui. Pas un mouvement tant que nous ne sommes pas assurés d'être dans sa volonté. C'est uniquement sur le chemin de l'obéissance que nous faisons l'expérience de sa vie. Nous donnerait-il, chers amis, des forces pour nous rebeller contre lui? Je vous le demande, chers amis. Si nous recevons pour notre corps la vie du Seigneur Jésus, nous ferons aujourd'hui l'expérience qu'il fortifie nos corps, tout comme il développe notre esprit. Nous avions la connaissance, nous réalisions déjà que notre corps était pour le Seigneur, mais à cause de notre volonté propre, il ne pouvait pas se manifester pleinement en nous. Or maintenant, par contre, tout lui est abandonné pour qu'il nous traite de quelque manière qu'il le désire. Nous présentons nos corps en sacrifice vivant, et c'est pourquoi ni notre vie, ni notre avenir ne sont entre nos mains. Nous comprenons bien maintenant ce qu'il faut entendre par le corps pour le Seigneur. Ce qui nous tracassait auparavant est désormais incapable de nous ébranler. L'ennemi peut nous tenter en prétendant que ce chemin est trop risqué ou que nous ne pensons pas assez à nous-mêmes. N'importe, nous ne sommes plus effrayés comme nous l'avons été autrefois. Nous savons une chose, nous appartenons au Seigneur absolument. Il ne peut donc rien nous arriver sans qu'il le sache et qu'il le permette. De quelque côté que nous vienne une attaque, elle n'est pour nous que l'indication d'une intention spéciale de sa part et nous avons l'assurance de son indéfectible protection. Nos corps ne sont plus à nous. Cellules, systèmes nerveux, organes de toutes sortes, tout lui a été remis. Nous ne sommes plus nos propres maîtres. Nous ne sommes donc plus responsables de nos corps qui ne sont plus à nous. Si le temps change brusquement, ça c'est son affaire. Une nuit d'insomnie ne nous cause plus d'anxiété. Satan peut nous assaillir de la façon la plus inattendue. Nous nous souvenons que c'est la bataille du Seigneur et non la nôtre. Séance tenante, la vie de Dieu se répand à travers notre corps. Dans une heure comme celle-là, d'autres peuvent perdre leur paix, peuvent être abattus, soucieux et chercher désespérément un moyen de délivrance. Mais pour nous, la foi déploie tranquillement ses effets et nous vivons de Dieu, car nous savons maintenant que nous ne vivons pas de ce que nous mangeons ou de ce que nous buvons, du sommeil que nous accordons, ni de quoi que ce soit de terrestre ou d'humain, mais uniquement de la vie de Dieu. Ces revers dans notre corps sont donc incapables de nous faire du mal. Comprenons que le Seigneur est pour son corps, le chrétien peut s'approprier pour répondre à ses besoins toutes les richesses de Dieu. Il ne demande pas plus que ce que Dieu lui procure, mais il ne se contente pas d'une mesure inférieure aux promesses qu'il lui a faites. Il refuse d'employer sa propre force pour accélérer une affaire, comme s'il pouvait venir au secours de Dieu et précipiter les choses avant l'heure. Il ne se cramponne pas, il attend tranquillement que les sages dispositions qui sont prises par son Père céleste déploient maintenant leurs effets. Quelle paix nous avons maintenant! Cherchons à honorer Dieu sous tous les rapports, et le croyant prend donc maintenant tout ce qui lui arrive comme une occasion de manifester sa gloire. Il n'use d'aucun artifice pour détourner à son profit une parcelle quelconque de la gloire qui revient à Dieu. Et quand le Seigneur étend son bras libérateur, eh bien, il est prêt à le louer. Le but de l'enfant n'est plus la bénédiction qui vient du Père, car Dieu lui-même est plus précieux que tous ses dons. Si la guérison ne contribue pas à exprimer Dieu, il ne tient pas à être guéri. Si nous ne convoitons que la protection et les biens paternels, c'est déjà une déchéance. Avoir sa vie en Dieu, cela n'est pas une transaction commerciale. Or, ceux qui le connaissent vraiment ne demandent pas la guérison, mais c'est surtout le Père lui-même qu'il recherche. Et, croyez-moi ou pas, il le trouve. Nous espérons que la prière de guérison ne cessera point lorsque la santé aura été retrouvée. Si la prière peut procurer la santé, alors elle peut aussi la préserver. Et cela est certainement souhaitable à tout moment. Avant d'entamer un cours de prière de guérison, nous devons au préalable essayer de comprendre ce que nous entendons par le terme « santé ». La plupart des gens la considèrent comme un état de bien-être physique. Par cette conception, une personne qui n'a aucun mal-être physique, est donc considérée comme étant en bonne santé. Or, la personnalité humaine n'est pas uniquement composée de chair et de sang. Cette réalité évidente est trop souvent négligée dans la recherche de la santé, avec des conséquences désastreuses. La personnalité représente une imbrication étroite d'un corps, d'un esprit ainsi que d'une âme, délicatement et inextricablement reliés les uns aux autres. Rechercher la perfection d'un seul élément de la personnalité au détriment des autres revient à léser l'ensemble. Le corps, l'esprit et l'âme composent une seule entité. Ils ne peuvent être arbitrairement séparés car ils interagissent en quelque sorte constamment entre eux. bien que nous ne soyons que très vaguement conscients, un corps malade peut déprimer, en effet, peut déprimer notre âme et affecter le jugement. Un esprit malade, ou même une phase de pensée morbide ou morose, peut, et c'est en effet le cas, générer des changements physiques souvent de nature sérieuse. L'attitude mentale a également la capacité d'affecter l'âme, et cela autant de manière négative que positive. De même que l'âme d'un jeune homme peut fournir à l'esprit des informations qui dépassent l'éventail de ses sens, et par là donner au corps des capacités d'endurance et de récupération, et même au-delà des simples possibilités physiques apparentes, l'âme d'un être humain est capable d'intuitions qui transcendent les processus mentaux, et elle peut donner ainsi des ailes face à une situation qui serait torturante. Chers amis, nous voulons essayer maintenant de terminer par la prière. Et vous savez, la vie de Dieu, elle va devenir ta capacité corporelle. Seigneur, veuille donc totalement vivifier cette personne qui, dans son cœur, le demande et en a besoin. Seigneur, nous te demandons que la vie de Jésus-Christ soit manifestée dans le corps de toute personne. Oui, nous croyons fermement que la vie de Jésus-Christ va être manifestée dans cette chair mortelle. Comme tu purifies cette personne de tout péché et tu renouvelles son esprit, tu désires manifester ta puissance dans la chair de cette personne. La puissance de résurrection de Jésus-Christ soutient notre corps. Nous présentons nos corps en sacrifice vivant. C'est pourquoi ni notre vie, ni notre avenir sont entre nos mains. Bien que la guérison est importante, nous devons surtout désirer et, on peut dire, rechercher Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Prions maintenant. Je voudrais dire avant, chers amis, vous avez entendu la sainte parole de Dieu. Même que ma voix change un peu par fatigue, priez pour que ma voix puisse tenir le coup. Chers amis, maintenant, vous, je m'adresse à vous, chers auditeurs et auditrices. Maintenant, si vous n'avez vraiment pas la possibilité de vous rendre dans une église, alors priez avec moi ces simples paroles. Je vais les dire lentement pour que vous puissiez les répéter lentement après moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens, corps, esprit et âme. Si cela n'est pas encore 100% le cas, je te fais la promesse qu'à partir de cette minute, j'ai décidé que cela soit une réalité maintenant. Jésus-Christ, je te supplie de me guérir maintenant, en ce moment même. Je prends cette promesse par la foi dans mon cœur et je crois que tu me guéris à cet instant même. Je te promets, Seigneur, de lire ta sainte parole pour pouvoir grandir dans la foi et aider d'autres malheureux. Louange et honneur à Dieu le Père, à toi Jésus-Christ, pour ton sacrifice que tu as fait pour me sauver et pour me guérir. Amen. Amen. Et chers amis, donc, Dieu voulant, à demain matin, pour la suite de cette série, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, mes très chers amis.